il n'y a pas longtemps que j'ai appris que je devais prêcher aujourd'hui. Donc j'étais un petit peu à la bourre, comme on dit. Donc il manque quelques exemples. Et donc par moment, comme je n'ai pas d'exemple, je vous solliciterai. Et c'est vous qui allez me donner des exemples, qui allez compléter mon message. On va le faire ensemble. Excusez-moi, c'est comme ça. Tu peux afficher le... Si ça marche. Alors, on peut éteindre. Je sais pas où se mettre avec les boutons. Ce matin, mon message, ça s'appelle les pensées virus du monde. Et je vais vous parler un peu de ces pensées qui sont véhiculées. Alors là, il y a un petit dessin, il y a une télévision qui nourrit une personne et qui le gave. La personne est un peu apathique et il est gavé comme ça. L'autre petit dessin, c'est, vous avez deux espèces de... qu'on appelle ça, des espèces de bonhommes qui vous crient dans les oreilles des messages. Ça va mieux ? Le deuxième petit dessin, c'est, vous avez deux porte-voix et vous êtes inondé de ces messages qui passent régulièrement à travers les médias, à travers la culture ambiante, à travers toutes les discussions. Vous avez ces messages lancinants qui vont nourrir notre âme, en fait. Et petit à petit, ces messages, ils vont prendre de l'importance et, sans m'en rendre compte, je vais commencer à fonctionner différemment. Je suis influencé, je suis baigné dans cette culture. Et c'est de ça que je vais vous parler. Et j'ai appelé ça les virus. Les pensées virus, c'est peut-être pas le mot juste, mais bon. Et là où j'ai pas pu terminer mon message, c'est que tous ces messages, on les retrouve beaucoup dans la publicité. Alors j'en ai mis quelques-uns, mais il m'a fallu plus de temps pour les trouver. Et vous trouvez dans beaucoup de slogans publicitaires ces pensées-là, parce qu'elles sont partout, elles sont dans les médias, dans la culture, etc. Mais c'est aussi visible dans la pub. Alors j'ai pu en sortir quelques-uns, mais pas suffisamment. Et souvent, ces pensées-là sont des pensées qui sont des mensonges pour moi, qui ne sont pas bibliques, qui ne sont pas selon l'optique de Dieu. Et chaque fois, je vous propose de mettre en avant un certain nombre de messages, et puis derrière, de regarder ce que Dieu nous dit. Alors, mon petit dessin paraît assez oppressant. On dit, on nous bombarde de messages. Donc la solution, c'est on va partir dans un monastère, on va aller s'isoler du monde. Tu peux appuyer. Mais bien évidemment, on ne va pas faire ça. Elder nous l'a cité dans sa prière. Ne vous conformez pas au siècle présent. C'est ça qu'on veut faire. Et faire attention à ces messages. Mais être transformé par le renouvellement de l'intelligence, afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. Et en même temps, on est dans ce monde et on veut être dans ce monde. Et on veut être proche de nos concitoyens. On veut... Et là, c'est ce que dit Paul. Je me suis fait tout à tous afin d'en conduire au moins quelques-uns au salut par tous les moyens. Et donc, je vais être baigné dans cette culture. Et il faut que je sois être équilibré, de savoir m'en protéger en étant forcément dedans. Alors, je vous propose de regarder ces messages-là. Alors, si vous n'êtes pas d'accord, je vais vous donner la parole. Un certain nombre de messages qui, pour moi, sont, ils sont omniprésents dans notre culture, c'est que tout est relatif. Il n'y a plus de vérité. Chacun a sa vérité. Le deuxième, c'est qu'il faut que tu t'occupes de toi d'abord. Enfin, de moi surtout. Pas de vous, mais de moi. C'est important. Je suis plus important que vous. Que j'ai des droits. J'ai surtout des droits. Qu'il faut d'abord que j'écoute mes sentiments. Que je dois tout avoir tout de suite, maintenant, et sans effort. J'ai mis 6, ça c'est si vous pourrez m'aider à en trouver d'autres. On complétera la liste. Voilà, c'est ces petits virus qu'on va essayer de regarder en détail et de voir ce que Dieu nous propose. Alors tous ces messages, ça découle d'un ensemble de courants philosophiques qui dérivent de l'humanisme, de ce qu'on appelle aussi l'anthropocentrisme. Voilà, ceux qui aiment bien les mots en isme, ça s'appelle l'anthropocentrisme. ou ce qu'on appelle la postmodernité. Donc il y a des gens qui sont très calés là-dedans, vous trouvez d'excellents livres très bien fouillés, pour ceux qui veulent vraiment creuser ça de manière théorique dans le détail, il y a un excellent livre d'Alfred Kuhn sur la postmodernité, mais je veux surtout rester sur des choses un peu pratiques et que ça, voilà, que ce soit pratique pour nous. On va regarder le premier. Déjà, est-ce que vous êtes d'accord que ça, c'est un message qu'on entend ?
Ouais.
Ouais, on est d'accord. On va lever la main pour si on est tous d'accord. Chacun sa vérité. Et malgré tout, de tous les messages, j'ai l'impression que... j'ai quand même le sentiment, peut-être que c'est une erreur, mais que peut-être, en tout cas, que dans notre église, et dans le... c'est pas celui qui est le plus dangereux pour nous. Peut-être je me trompe, peut-être, en tout cas, c'est ma perception, c'est celui, en tout cas, je me sens moins en danger. Peut-être que c'est une erreur. Parce qu'il me semble qu'en tout cas, dans l'église, on est vraiment fondé à croire qu'il n'y a qu'une vérité. Mais voilà, les hommes considèrent qu'il n'y a plus de vérité, il n'y a plus d'absolu. Chacun a sa vérité. Il y a eu parlement des grands courants de pensée au siècle dernier qui ont orienté les gens dans différents modèles. Maintenant, on rencontre beaucoup de personnes qui ne défendent plus un modèle. Tu penses ça, je pense différent. Il n'y a pas de vérité, en fait. Voilà, on est différent, c'est bien. Donc j'ai du mal à me rejoindre parce qu'il n'y a pas de vérité. Juste citer un exemple, parce que quand on était à Chalon, il y avait un conseil de tous les pasteurs anciens de toutes les églises de la ville. Et on a eu beaucoup de mal avec le pasteur d'église réformée, qui était un homme charmant, mais qui avait une vision très libérale. Et qui, il y a la Bible, certes, mais voilà, l'homme a découvert un certain nombre de choses. Et on arrive dans une théologie qui est très évolutive. Il n'y avait plus une vérité. Et ça a donné de nombreux débats dans ce conseil-là. Et récemment, j'ai acheté une revue sur les similitudes entre le bouddhisme et le christianisme. Dans l'article, on citait des bouddhistes et des chrétiens qui priaient ensemble. Moi, j'ai du mal. Hein. J'ai vraiment du mal avec ça. Et je pense qu'il faut qu'on ait beaucoup de respect pour tout homme. Beaucoup de tolérance. Mais quand même... Si tu veux. Voilà, c'est Jésus-Christ qui est la vérité. Et il n'y a qu'une seule source de vérité, c'est la parole de Dieu. Et j'ai dû citer deux versets, Jean 17, 17, sanctifiez-les par ta vérité, ta parole est la vérité. Et je veux juste que quelqu'un nous lise le psaume 119, 8 petits versets. Tiens, Régis, si tu veux nous lire ça.
Dans mon cœur ce que tu as dit pour ne pas pécher contre toi. Béni sois-tu, Seigneur, apprends-moi tes prescriptions. De mes lèvres, j'énumère toutes les règles de ta bouche. Je suis content de suivre tes préceptes comme si je possédais tes toutes richesses. Je médite tes directives, j'ai tes sentiers sous les yeux. Je fais mes délices de tes prescriptions, je n'oublie pas ta parole.
Voilà, oui. En fait, on pourrait le lire complètement, c'est bien, merci Régis. On pourrait lire tout le psaume 119 qui nous parle beaucoup de la parole. Et je vous invite à le lire cette semaine, c'est un magnifique psaume. Voilà, il y a bien une vérité, et c'est Jésus-Christ, et on la trouve dans la parole. On va passer au deuxième, qui me semble en tout cas pour moi plus dangereux pour moi, si tu veux cliquer. Voilà, c'est ça que j'ai pas eu le temps de vous trouver suffisamment. Occupe-toi de toi d'abord, parce que tu es si important. Alors, je sais pas si vous le voyez, ça c'est surtout pour les femmes, c'est un sujet pour les femmes. Le leader mondial de la cosmétique, L'Oréal, a mis un message qui est là depuis 40 ans, qui est « Parce que vous l'avez bien, parce que je le vaux bien ». On sait que pour les femmes, les hommes n'en ont pas besoin de ça, on est insensible à ça. Merci Seigneur. Tout à fait raison, Elder. Voilà. J'avais bien de toi pour aider mon message, ça manquait à mon message, ça. Tu as raison. Voilà, c'est je suis quelqu'un d'important, je le vaux bien. J'en ai mis un autre. Sur des. C'est les soldes de chez Casino. Mais c'est les soldes, moi d'abord. Et ça m'a manqué de temps, mais je pourrais en trouver des dizaines. Et voilà, hier soir, j'ai fait un peu tard pour en trouver. Cette culture que c'est moi. Je vous en cite quelques-uns. Bouygues Télécom en 2010. Bouygues Télécom en faire plus pour vous. Radio France Bleu, c'est vous qui êtes formidable. Voilà, toute la pub. Alors, clairement, la publicité, c'est pour faire vendre. Hein. Il s'agit surtout de faire vendre, mais... C'est moi. Alors historiquement, il y a quelques siècles, il y avait le collectif, il y avait soit la tribu, soit la nation. C'était une valeur importante, le collectif. Ça a disparu, la nation n'est plus vraiment une valeur importante. Il reste la famille, reste le couple. Mais on voit bien que même parfois au sein des familles ou du couple, chacun vit d'abord pour lui. Qu'est-ce que l'autre m'apporte à moi qui suis si important ? Est-ce que j'y trouve mon compte ? On voit un certain nombre des fois de revues où les gens sont appelés à évaluer leur propre bien-être. Puisque c'est moi qui est important, puisque je dois être épanoui, puisque c'est important que je sois épanoui moi, qui est si important, est-ce que les autres contribuent à mon épanouissement ? Alors on peut être influencé par ce mode de pensée. Et si on cherche un petit peu parfois dans nos relations, je parlais au couple là, est-ce que ça vous arrive pas dans vos discussions de réclamer à l'autre, est-ce que tu t'occupes pas suffisamment de moi ? Et moi d'abord ? Ça ne concerne que moi ce que je dis, hein. Les autres sont pas... Ou même dans nos relations de groupe d'église, c'est l'autre qui doit satisfaire mes besoins. Donc c'est le moi d'abord par rapport aux autres, et c'est aussi le moi d'abord par rapport à Dieu. Et si vous cherchez dans la littérature chrétienne, y compris dans l'Église, vous allez trouver des livres où comment réussir ma vie grâce à Dieu, comment être performant, comment être heureux en couple. Et même si ces bouquins sont super, hein, j'en ai à la maison, il y a plein de conseils que je ne suis pas d'ailleurs. Mais on est juste en train de déplacer, c'est comment moi qui suis important, je veux être heureux, et comment Dieu est le moyen par lequel je suis heureux. On a juste subtilement inversé le sens des choses, et c'est cela que je veux souligner. Par rapport à Dieu, c'est que Christ est le centre de ma vie. Il est celui que je dois glorifier. Il n'est pas celui qui va faire que je sois heureux. C'est vrai, mais ce n'est pas la priorité. Il ne faut pas qu'on inverse les messages. On va juste relire deux versets de Colossiens et de Romains. Ça marche, je vais te mettre comme ça. Car c'est en lui qu'ont été créées toutes choses dans les cieux, comme sur la terre, les visibles, les invisibles, les trônes et les seigneuries, les autorités, les puissances. Oui, par lui et pour lui, tout a été créé. Il est lui-même bien avant toute chose et tout subsiste en lui. Tout est de lui, par lui et pour lui. À lui la gloire dans tous les siècles. Amen. Je vous exhorte donc, frères, par les compassions de Dieu, à offrir vos corps comme un sacrifice vivant, saint, agréable, ce qui sera de votre part un culte raisonnable. Si je vous posais la question, c'est quoi le but de votre vie ? Là, je vous écoute, c'est quoi le but de votre vie ?
Faire la volonté de Dieu.
Je suis d'accord, on est d'accord, que Dieu soit glorifié. Si par moment vous regardez ma vie, enfin on va pas le faire parce que ça ira. Si vous regardez ma vie, par moment vous verrez qu'il y a beaucoup de choses que je fais dans ma vie, c'est pour être heureux, c'est pour être bien. Et je passe beaucoup de temps à m'occuper de ça, et je prie mon Dieu qui le bénisse. Et j'oublie d'abord, c'est lui qui est la priorité, c'est lui que je dois glorifier, c'est lui le sens de ma vie, c'est pas moi. Et puis l'autre chose, c'est par rapport aux autres, par rapport à mon conjoint, à ma famille, c'est pas moi d'abord. C'est être serviteurs les uns des autres. Et Clément nous a fait chanter un chant qui parle du roi serviteur. On va passer au message suivant. En fait, j'ai mal écrit. C'est une erreur, ça. J'ai pas eu le temps. C'est pas tu as le droit, c'est j'ai le droit. Le message, il est là, j'ai le droit. Alors, je l'entends beaucoup dans la bouche de mes filles, parce qu'elles sont ados. Alors, les ados, c'est l'horreur, hein. ils ont droit à tout. Mais c'est vrai quand même chez moi aussi, hein. Je veux dire, pas que... Regardez la télévision, on n'a que des droits. On n'a que des droits. Et donc, on peut rentrer dans cette logique de « j'ai le droit de... que tu t'occupes de mes besoins, j'ai le droit de te dire tes quatre vérités, même si ça te blesse, j'ai le droit, je suis complètement là-dedans. » Alors, c'est là que vous allez intervenir à nouveau. Vous avez les droits, vous avez les devoirs. Ça, c'est un mot qui a disparu, le mot devoir. On ne le trouve plus dans notre civilisation. Dans la parole, quels sont nos droits? Est-ce qu'on a des droits? Dans la parole. Est-ce que vous avez des versets qui parlent de droits? Oh, il y a quelques-uns quand même. Ah, moi j'en ai trouvé, alors si vous n'en trouvez pas, c'est... Alors moi je vais vous en mettre, si tu veux passer. Moi j'en ai trouvé quelques-uns. C'est lisible ou pas?
Oui.
Le droit d'être appelé enfant de Dieu. Le droit d'avoir accès auprès du Père. Le droit de demander au nom du Père, etc. On est quelques versets. J'ai des droits qui découlent du fait que je suis un enfant de Dieu. Mais si je fais la liste de mes devoirs, j'ai peur que la liste ne soit beaucoup, beaucoup plus longue. Alors j'en ai juste mis quelques-uns. Le devoir d'aimer, le devoir de servir, mes frères, mon époux, mon épouse, ma famille, le devoir d'obéir, de me soumettre, j'aime pas du tout celui-là, de témoigner et de chercher la sanctification. Alors, il faut juste qu'on fasse attention, petite parenthèse, parce que là, on s'entraîne à détecter ce petit message qu'on utilise. Alors, le but n'est pas de le détecter chez les autres. Il ne s'agit pas de, cet après-midi, de dire à son conjoint, à sa conjointe, « Ah ! Je t'ai pris en flagrant délit de me dire que tu as le droit. » Non, non, non. Il faut s'appliquer à soi, d'abord. Hein, parce que sinon, c'est pire. Si on passe ça pour détecter chez les autres. Quelques exemples. Pas dû le mettre là. L'apôtre Paul, en 1 Corinthiens 9, dit qu'il a des droits. 1 Corinthiens 9 et au verset 12. Je vais lire, c'est par rapport au soutien d'un apôtre. Le fait que il avait le droit d'être soutenu financièrement dans son ministère. Au verset 12, il peut dire « Si d'autres jouissent de ce droit sur vous, n'est-ce pas plutôt à nous d'en jouir? Mais nous n'avons point usé de ce droit, au contraire, nous souffrons tout afin de ne pas créer d'obstacle à l'évangile de Christ. » Verset 15 « Pour moi, je n'ai usé d'aucun de ces droits. » Je peux même avoir des droits, mais de choisir de ne pas les revendiquer. On l'a déjà dit, mais Jésus-Christ, qui est notre suprême exemple, qui n'a pas usé de ses droits, mais qui s'est fait serviteur. Je je voudrais terminer par un droit particulier qui pour moi parfois s'inscrit dans notre, et particulier dans l'Église, c'est le droit d'être guéri et le droit de ne pas souffrir. Parce que c'est quelque chose qui parfois vient dans nos têtes et on peut l'entendre. Est-ce que c'est un droit d'être guéri, de ne pas souffrir, d'avoir une vie heureuse? Est-ce que c'est un droit? Ah, nous sommes d'accord, j'ai entendu le mot grâce. Évidemment, Dieu est un bon père. Et je ne veux pas que mon message, ce soit un message de oh, la vie c'est l'horreur absolue, on est forcément malheureux. Non, Dieu est un Dieu de grâce, Dieu est un Dieu qui veut bénir, Dieu qui veut... Mais ce n'est pas un droit, c'est une grâce. Et Dieu veut guérir, mais c'est sa grâce, et par moments, dans sa souveraineté, il ne permet pas la guérison. Je ne comprends pas pourquoi, mais je n'ai pas le droit, non. Ce n'est pas un droit d'être guéri. Et ça, ce sera pour mon prochain message, ça c'est fait l'introduction, c'est que l'homme est tellement occupé de la souffrance, et c'est compréhensible, moi-même je suis tellement occupé de la souffrance, pour être enlevé la souffrance dans nos vies, et le monde veut enlever la souffrance. Je pense que Dieu veut enlever la souffrance, mais il enlève d'abord le péché. C'est d'abord sa priorité. Et je pense qu'on n'est pas toujours aligné avec l'optique de Dieu, puisqu'on veut d'abord enlever la souffrance. Dieu enlève d'abord le péché, et après la souffrance. Mais j'en ferai un autre message. On va passer au message suivant. Écoute tes sentiments. Vous êtes d'accord avec celui-là? Non. Enfin, est-ce que vous l'entendez dans le message ambiant? Oui, non. Oui, merci. Moi, j'entends souvent des gens qui me disent qu'ils ne le sentent pas. Alors moi, je ne sens rien du tout, j'ai le nez bouché. Mais eux, ils sentent les choses, que ça va le faire ou pas le faire. C'est du ressenti. Et par le ressenti, ils vont prendre une action. Ils savent parce qu'ils ressentent. Ce qui est un petit peu... Enfin, je pense qu'on peut... Quand j'étais à Chalon, il y a plusieurs personnes avec lesquelles j'ai discuté parce qu'elles ne sentaient pas la présence de Dieu. Et donc Dieu n'était pas présent. Et ici, vous êtes spirituel, donc il n'y a personne comme ça ici. Mais... On base des fois notre ce qu'on vit sur ce qu'on ressent et pas sur ce qu'on sait. Non, là je le fais dans l'inverse. On va passer au... Si tu peux cliquer dessus, voilà. La première chose, c'est que cette dépendance des sentiments, des émotions, la Bible nous dit de se méfier de son propre cœur. J'ai cité deux versets de Jérémie. Moi, c'est petit, hein, je ne sais pas si vous pouvez les lire. Mais qui dit que le corps est tortué par-dessus tout, il est incurable, qui peut le connaître? Et si on écoute notre propre cœur, on va bien souvent partir dans des voies, dans des mauvais chemins. C'est le deuxième point que je veux souligner. C'est que... Au lieu de sentir les choses, d'un ressenti qui ne vient de je ne sais où, et que derrière je sais les choses, c'est l'inverse. Je sais les choses, et de cette connaissance viendra le ressenti. Je ne sens pas la présence de Dieu, mais je sais qu'il est présent. Je ne le sens pas immédiatement, je le sentirai plus tard, mais je sais qu'il est là. Et c'est un... Voilà. Je sens que mes prières ne dépassent pas le plafond, que Dieu ne m'écoute pas. Ok, mon ressenti est faux. Je dis à mon cœur, stop, c'est pas vrai. Je sais qu'il m'aime, je sais qu'il m'écoute. J'aurai le sentiment après. Il y a un combat dans nos pensées de se méfier de notre propre cœur. On va passer au suivant. Tout de suite, là, maintenant, et sans effort. Alors ça, j'espère que vous l'entendez, celui-là. toute la pub est basée là-dessus. Hein. Mesdames, une pilule miracle et vous allez perdre 3 kilos. C'est comme ça que ça marche. Ou voilà, buvez Tello, etc. Enfin bref, toute la, on est là-dedans. Il faut rien suffit. En tout cas, il faut acheter surtout. Une fois que vous aurez acheté, vous allez voir, c'est rapide, c'est efficace. Il n'y a pas besoin d'attendre. Et c'est sans effort. C'est quasiment magique par moment. Voilà, ça va être ultra rapide. Et on peut raisonner comme ça, hein, même dans l'église. Vous allez voir, faites ce week-end et vous allez décoller avec Dieu. Hein. En un week-end, hein, 24 heures et vous allez être des pros. Pas sûr que ce soit la vision de Dieu. Dieu peut nous permettre de faire des marches. Attention, il ne faut pas être un petit peu catégorique dans ce que je dis. Dieu par moment permet que lors d'un événement, Dieu se révèle à nous et boum, on va. Et moi j'ai vécu ça dans ma vie, où sur des week-ends, Dieu m'a parlé et voilà, il y a eu un avant, il y a eu un après. Mais une fois de plus, c'est une grâce. Dieu ne travaille pas tout le temps comme ça. Et on voudrait tellement que dans nos vies, Dieu échange les choses comme ça. Immédiatement, comme d'un coup de baguette magique. Il n'y a pas besoin de persévérer, il n'y a pas besoin de lutter. Vas-y Dieu, fais-le. Alors c'est déjà dans notre nature. Hein. Si vous avez la parole, vous trouverez X exemples d'hommes de Dieu d'ailleurs qui n'ont pas voulu attendre, qui ont voulu trouver leur solution parce que la solution d'eux, elle tardait à venir. Donc je prends mes propres solutions. L'histoire d'Abraham, enfin il y en a d'autres. Hein. Saül, enfin voilà, vous en avez 10 là, on peut. Si tu veux, on va voir là. J'ai mis ça comme ça. Aie foi en moi, espère et persévère. Ça fait des rimes. J'ai mis deux versets hébreux. Vous avez en effet besoin de persévérance pour qu'après avoir fait la volonté de Dieu, vous obteniez ce qui a été promis. Puis Hébreux 12, puisque nous sommes entourés d'une si grande nuée de témoins, rejetons tout fardeau les péchés qui nous enlacent si facilement et courons avec persévérance l'épreuve qui nous est proposée. Si vous cherchez dans la parole le mot persévérance, combien de fois ?
Souvent.
Alors après, plus de 30 fois. Le mot patience, 40 fois. Il y a, dans la parole, il y a souvent l'image de la semence. Et il y a une vraie symbolique. Et on n'est plus des cultivateurs, c'est dommage. Je pense qu'il y avait une vraie sagesse du cultivateur qui va semer la graine et qui va attendre. Et en plus, c'est pas lui qui fait pousser. C'est Dieu qui bénit et ça grandit. Et il faut du temps. Alors que non, nous on veut tout de suite là. Non. Je vais terminer avec. Ouais, c'est assez illisible. Vous n'arrivez pas à lire en fait. Hein. Alors on a regardé 5 messages. Le premier c'était que tout était relatif à chacun sa vérité. Et ce que Dieu nous dit, c'est qu'il n'y a qu'une seule vérité, Jésus-Christ, et que c'est sa parole qui est la vérité. Le deuxième message, c'était que je suis important, moi d'abord. Et que Dieu me dit, non, le centre de ma vie c'est Christ. Et derrière, en conséquence, je sers les autres. Que j'ai le droit d'être bien, d'être heureux, j'ai même mis de guérir. Et même si c'est vrai qu'on a des droits, le droit qui nous vient d'être enfant de Dieu, je voulais insister sur nos devoirs de servir, d'aimer et de le glorifier. Au lieu d'écouter mes sentiments, voilà, me méfier de mon propre cœur et d'abord savoir les choses en me basant sur la parole et après je ressentirai les choses. Enfin, le cinquième, c'était le fait que je veux tout de suite et sans effort de plus et que Dieu me dit d'avoir foi, d'espérer, de persévérer. Alors, j'ai laissé un petit 6. Est-ce que vous envoyez d'autres de ces messages qui nous pollue.
Hein, j'entends souvent dans mon travail déjà. Il n'y a pas de mal à se faire du bien.
Il n'y a pas de mal à se faire du bien. L'importance du plaisir. Le plaisir d'abord. Tu as raison. Ça fait partie de ces messages. Voilà. Il y a un autre que j'ai trouvé ce matin, moi, c'est ne t'engage pas. Ouais, c'est vrai. Non. Alors, je vais vous donner des devoirs de vacances. Alors, comme j'ai dit tout à l'heure, vous ne débusquez pas ces paroles-là chez les autres. Hein. C'est exclusivement pour vous. Par contre, quand vous regarderez la télévision, quand vous lirez les choses, si vous trouvez justement ces messages-là, faites un petit copier-coller, vous me l'envoyez. Ça me complétera ma base de données. Il faut qu'on soit vigilant sur nos lectures, sur nos écrans. Je pense que des fois, ce serait utile qu'on fasse un peu silence. La parole, il y a un moment que je me suis bouché les yeux, de couper un peu la télévision, de couper un petit peu la radio et de rester dans le silence pour être juste en face de Dieu.
Un mot qui revient souvent, c'est séduction, si vous voulez séduire aussi. Oui. Dans la pub, c'est inimaginable de vous laisser séduire.
Voilà, oui.
Parfum pour séduire.
Oui, la tentation est. C'est presque banalisée. Voilà, je prie que Dieu nous donne la sagesse de faire le tri et que on arrive à contrebalancer à travers ce. Et moi, j'ai vraiment cette image. Si tu veux revenir au tout départ, s'il te plaît. C'est vraiment cette image que on est quelque part un peu bombardé de ces messages en permanence et que c'est tellement insidieux que je ne m'en rends même pas compte. Si c'était beaucoup plus clair, peu importe. Voilà, je reçois ça et je me laisse transformer sans m'en rendre compte. Voilà, qu'on soit capable par l'Esprit de Dieu de détecter ça, de s'appuyer sur la parole, pour rester sur les vraies vérités, la vraie optique de Dieu. Je vais terminer en priant. Père, tu nous as tant aimés. Tu as fait de nous tes enfants et tu désires le meilleur de nous, tu désires nous renouveler, renouveler nos âmes. Et Seigneur, dans ce monde où il y a tant de messages qui sont tellement opposés à ta vision des choses, je prie que tu nous aides à faire le ménage dans nos âmes, que ton esprit nous aide à détecter nos dysfonctionnements parce qu'on s'est laissé influencer par ces messages. Seigneur, on veut redire ensemble que c'est toi le sens de nos vies, que c'est toi d'abord, c'est ta volonté et après la mienne, que je veux être serviteur, que je veux marcher fidèlement et persévérer avec toi pour faire ta volonté. Seigneur, aide-nous à détecter tous ces faux messages et à avoir une vie qui t'honore. Amen. Je te laisse ta place.